France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Adèle Caglar à la console.
Il suffit entre amis couchés dans l'herbe tendre, au bord d'une rivière, à l'ombre d'un grand arbre, de jouir à peu de frais de nos corps apaisés. Surtout lorsque le temps sourit, quand la saison égaye de mille fleurs les prairies verdoyantes.
L'heure philo. Patricia Martin, sur France Inter.
Entre amis, comme dans ce passage de Lucrèce que nous venons d'entendre lu par Lilian Allôme, entre amis, parce que les deux philosophes que je reçois se connaissent et s'apprécient, alors plutôt que de les pousser à la confidence, je préfère lire ces quelques lignes d'André Comte-Sponville au sujet de Francis Wolff, et vous l'aurez déjà deviné, ils sont nos invités. Francis Wolff, écrit donc André Comte-Sponville, pour qui j'ai autant d'admiration que d'affection, cela fait 40 ans que nous discutons ensemble, presque toujours de philosophie, plus de 30 ans que nous nous lisons mutuellement, que nous nous écrivons, et cela fait des années que je participe à son séminaire rue d'Ulm, séance que nous prolongeons ordinairement au bistrot. C'est pour moi une chance extraordinaire et une grande joie. Alors, il faudra tout de même nous dire, mon cher André Comte-Sponville, ce que Francis Wolff vous a bien pu vous écrire dans les années 90, je crois, dans une lettre et qui vous a tant fait rire. Parce que ça, vous ne le dites pas dans votre essai.
Alors, il proposait une conceptualisation totalement inédite qui visait à sortir des dichotomies. Ping-pong. Mm-hmm. Et donc, il énonçait la proposition, l'être se dit en sous trois mots, ping, pong, pang. Et il conceptualisait ces trois notions en expliquant que j'étais un philosophe résolument ping. Alors, je lui ai la charge d'expliquer ce que ça veut dire que ping, mais je crois me souvenir que j'étais dans la même catégorie que Chopin, et donc je n'ai pas pris la chose mal.
Voilà. Alors, expliquez-nous, Francis Wolff.
Oui, je disais qu'il y avait des philosophes ping, des bons et des mauvais, des philosophes pang, je prenais comme exemple Descartes et Kant, et des philosophes pong, par exemple Hegel, déjà avec le ton que je prends pour dire Hegel, vous comprenez ce que c'est qu'un philosophe pong. Et j'estimais, à la lecture du petit traité des grandes vertus, qui est un de ses grands livres, des grands livres d'André, qu'il traitait de façon absolument magnifique des vertus ping, plus que des vertus pang ou des vertus pong, et qu'il était par conséquent, d'une manière générale, un grand philosophe ping, et que je considérais que peut-être l'époque portait plutôt à favoriser les philosophes pang ou pong, mais qu'il devait rester dans cette ligne résolument ping.
Ben voilà qui restera dans les annales. Au bistrot, tout de même, vous ne parlez pas que de philosophie, j'imagine, entre vous.
Essentiellement, mais il faut dire qu'on s'est beaucoup vu, effectivement, après les lundis de la philosophie. Donc Francis animait un séminaire tous les lundis, rue d'Ulm, à l'École normale supérieure. Et donc, comme on sortait d'un séminaire de philosophie, bah forcément, on parlait presque toujours de philosophie. Il pouvait arriver qu'on parle politique, quand
oui,
la situation
que oui.
s'y prêtait, comme c'est
oui.
le cas malheureusement oui. en ce oui. moment. Non, mais puis c'est notre passion commune, au fond.
Je vais aller plus loin que ce que vient de dire André. J'ai souffert, et peut-être André lui aussi, a souffert dans ma carrière, de fréquenter des philosophes, d'avoir des collègues philosophes, d'être entouré d'étudiants philosophes, et de ne presque jamais parler de philosophie, au fond. C'est-à-dire, les gens parlent de poste, de carrière, dans le pire des cas, parfois ils parlent de l'actualité, mais discuter de philosophie, c'est quelque chose qui, au fond, échappe un peu à notre vie sociale. Et André est un des rares avec lequel j'ai eu le plaisir de discuter, c'est-à-dire d'argumenter, d'échanger non pas simplement des opinions, mais véritablement des positions et des arguments.
Un complice rare. André Comte-Sponville, votre livre, qui est donc sorti aux presses universitaires de France, s'intitule « L'opportunité de vivre ». Il est sous-titré « Ultimes études ». Ce sont, alors je ne sais pas, les études c'est quoi? C'est comme des articles, c'est comme des propos, ce sont des impromptus?
Alors c'est un certain type d'article. Moi j'aime les formes brèves, donc je préfère à la limite écrire un article plutôt qu'un livre. Je pense que pour le lecteur, la brièveté est aussi une qualité. Mais si on veut que les articles durent un peu, il faut les rassembler en volume. Alors j'ai pris l'habitude de ranger mes différents articles dans trois catégories différentes. Les plus brefs, publiés dans des journaux, souvent à propos de l'actualité politique, j'ai pris le nom que leur donnait Alain, j'appelle ça des propos. Et j'ai fait, je crois, trois recueils de propos. Et puis il y a des articles un peu plus longs, une quinzaine de pages, une vingtaine de pages, et surtout plus littéraires, plus subjectifs, plus mélancoliques, que j'ai appelé, empruntant un titre à Schubert, que j'ai appelé des impromptus, qui sont sans doute les textes les plus littéraires que j'écrive. Et puis, il y a les textes plus techniques, d'histoire de la philosophie, plus savants, avec beaucoup de référents, de notes en bas de page.
De mise
en perspective. Et là, j'ai appelé ça, pensant à Chopin, j'ai appelé ça des études. Dans l'idée d'études, il y a l'idée de travail, d'exercice. Et donc, voilà, là, alors j'ai mis ce sous-titre « Ultimes études » parce que je trouve que j'ai plus l'âge de faire des études. C'est-à-dire que j'ai beaucoup donné à l'histoire de la philosophie.
Mais vous n'allez pas vous retirer pour autant.
J'ai recueils d'études et j'ai envie maintenant, à supposer que je fasse d'autres livres, ce qui reste à voir, je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas de projet de livre, mais en tout cas, je pense que je ne ferai plus de livres d'histoire de la philosophie. Mais je suis très content d'en avoir fait trois. J'ai fait trois recueils d'études et je suis très content notamment de publier celui-ci.
Et de rendre finalement grâce, en quelque sorte, à des philosophes qui ont infléchi votre pensée, votre destin.
Oui, bien sûr, puisque quand on travaille sur les grands auteurs, c'est pour apprendre à penser mieux soi-même. Vous savez ce que disait Malraux, c'est dans les musées qu'on apprend à peindre, en copiant les maîtres d'autrefois. Ben, moi j'ai souvent dit, c'est dans les livres de philosophie qu'on apprend à philosopher. Et ce que j'appelle des études, ben, c'est écrire un texte sur un autre philosophe que soi-même, mais bien sûr pour en tirer une leçon de philosophie. Et là c'est le cas, puisqu'il y a des textes sur Montaigne, vous savez que Montaigne compte beaucoup pour moi, il y a un texte sur Spinoza, un texte sur Marcel Camps, qui était mon maître et mon ami à la Sorbonne. Donc voilà, c'est une façon, si j'ose dire, de parler de soi, mais indirectement, de parler de soi en parlant de ceux qui vous ont marqué, qui vous ont formé, qui vous ont influencé.
Alors, puisque vous vous lisez mutuellement, Francis Wolff, j'imagine que vous avez lu ce recueil de votre ami André Comte-Sponville. Est-ce que vous citeriez un peu les mêmes philosophes, c'est-à-dire ceux que dont vous venez de parler, mais aussi Épicure, peut-être Althusser et d'autres?
Alors, nous avons une partie de nos philosophes en commun. Et il est vrai que Épicure, Lucrèce en font partie. J'ai moi-même, il y a bien longtemps, écrit un livre autour de ce courant philosophique. Mais mes références principales ne recoupent pas celles d'André. André a cité, en effet, par exemple, pour en venir à une de nos grandes divergences, il se range plutôt du côté de Spinoza, même si l'article qui lui est consacré dans l'opportunité de vivre est en partie critique, et moi je me range plutôt du côté de Descartes, disons. Mes références principales sont Aristote, que André pratique en partie, et Kant qu'il pratique moins que moi, je crois. Voilà. Nous n'avons pas tout à fait le même corpus, mais nous avons un même goût pour éclairer nos propres lanternes à la lecture des grands philosophes du passé, ça c'est évident.
Alors vous, Francis Wolff, vous publiez « La vie a-t-elle une valeur ?» aux éditions Philosophie Magazine, donc éditeur. C'est donc un essai, on va en parler, mais je voudrais que vous nous disiez un mot de l'avertissement qui ouvre donc ce livre, et où vous nous dites que vous aviez fini déjà d'écrire le texte lorsque Donald Trump est devenu président des États-Unis.
En effet, j'ai mis un point final à ce ouvrage le 1er novembre, et donc avant l'élection, qui en fait, maintenant tout le monde dit que c'était prévisible, mais personne ne l'avait prévu, à ma connaissance. Et cette élection a eu en effet un effet, on le voit maintenant, tous les jours, des effets absolument catastrophiques, dont certains étaient là encore imprévisibles, mais dont celui qui était prévisible, c'était évidemment le climato-scepticisme de Trump et le fait que cela créerait à court ou moyen terme des catastrophes écologiques. Et comme je débats en partie dans ce livre avec certains courants de la pensée écologique contemporaine, j'ai été pris d'une panique, si je puis dire. J'ai failli ne pas rendre ce manuscrit à l'éditeur parce que je ne voulais pas marquer un but contre ma propre équipe. Je me considère comme engagé dans la pensée écologique et j'estimais que, j'avais peur du moins que cet ouvrage dans lequel je discute certains aspects de la pensée écologique vivante soit utilisé en fait pour de mauvaises raisons. Par conséquent, j'ai failli ne pas rendre le manuscrit à l'éditeur et j'ai préféré signer cet avertissement dans lequel je dis dans quel camp je me range.
Mais on va évidemment parler des points que vous soulevez, mais rien que le titre « La vie a-t-elle une valeur ?» demande un éclaircissement, une explication, forcément.
Alors, en effet, parce que si on pose cette question, on pense immédiatement que c'est une provocation, cette question, puisque s'il y a bien une chose qui, lorsqu'on, même sans beaucoup philosopher, il y a bien une réponse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que s'il y a quelque chose qui a une valeur pour les êtres humains que nous sommes, du moins, c'est bien la vie qui est la condition de toute joie et peut-être aussi de toute peine. Mieux vaut vivre que ne pas vivre. Et par conséquent, s'il y a bien une chose qui a une valeur absolue, c'est la vie humaine. Alors, je ne remets pas en question ce dogme et je ne prône pas le meurtre généralisé en disant que la vie n'a aucune valeur. Non, le point
ni
est
le
suivant.
Suicide généralisé.
Ni le suicide généralisé.
Puisque vous en parlez d'ailleurs tous les deux.
J'essaye au contraire de montrer les raisons pour lesquelles la vie humaine a une valeur absolue. D'ailleurs, la démonstration n'est pas si simple.
Non, c'est vrai.
Mais en fait, quand on dit la vie, il ne s'agit pas simplement de l'existence humaine dans son contenu, il s'agit de la vie des êtres vivants, c'est-à-dire des bactéries, c'est-à-dire des plantes, des insectes, voilà. Et la question, là, de savoir si la vie en tant que telle, la vie nue, si je puis dire,
la vie brute,
la vie du vivant en tant que vivant, a une valeur, elle est, elle, considérable. Parce qu'en même, d'un côté, on est pris dans une espèce de dilemme. D'un côté, évidemment, sans la vie, il n'y aurait rien, et par conséquent, nous ne serions pas là pour en parler. Et puis, d'un autre côté, la vie, il y a du bon et du mauvais. Il y a des bactéries tueuses, il y a des moustiques qui donnent la dingue.
Il y a des virus qui se reproduisent
et qui donnent. En fait, l'image même du vivant, c'est cette reproduction indéfinie d'un virus ou d'une bactérie ou d'une pandémie. Donc, la question de savoir quels sont les critères pour qu'il y ait une valeur au vivant et comment la valeur vient au vivant est une question que j'ai voulu traiter.
André Comte-Sponville.
Oui, Francis disait que dans son avant-propos qu'il voulait préciser dans quel camp il se rangeait. Ben, disons-le d'un mot, plutôt de deux, Francis se range, comme moi d'ailleurs, dans le camp de l'écologie humaniste. Donc, il est pour l'écologie, comme la plupart des gens, évidemment. Mais une écologie humaniste, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de ceux que j'appelle moi l'écologie culpabilisatrice, qui considère que l'humanité est à l'origine de tous les maux, la pire des espèces. Bref, il y a une écologie anti-humaniste, si vous voulez, qui existe, dont on peut résumer l'esprit par le titre d'un livre qui n'est d'ailleurs pas si mauvais que ça. J'ai pas retenu le nom de l'auteur, mais le livre s'appelait « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Autrement dit, puisque c'est l'humanité qui pollue, puisque l'humanité est l'espèce prédatrice absolue, certains en viennent à souhaiter la disparition de l'humanité. Ben, c'est bien sûr pas la position de Francis. Ce que montre Francis, au contraire, c'est que préserver la biosphère, préserver le reste de la planète, ça vaut d'abord pour préserver l'humanité. Et donc, il n'y a pas à choisir entre le vivant et l'humanité. C'est pourquoi ce livre, ce que montre Francis, c'est que pour lui, la valeur absolue, c'est pas le vivant, c'est la vie humaine, c'est l'humanité.
Le vivant, qui est un terme dont vous dites bien qu'on l'emploie un peu trop souvent. C'est ce que j'ai cru comprendre,
Francis. Le vivant, un des thèmes qu'on entend, c'est en effet un certain emploi un peu tous azimuts du concept d'anthropocène qui est interprété. Alors, je ne conteste pas sa valeur scientifique, qui d'ailleurs elle-même est discutée, mais c'est l'idée que, voilà, l'homme est le grand responsable et le vivant est la grande victime. Autrement dit, comme on a tendance aujourd'hui de plus en plus à raisonner en termes binaires, c'est-à-dire les dominants et les dominés, eh bien, l'homme, voilà, par son hubris, par son orgueil, a fini par dominer la planète et donc l'ensemble du vivant, il en est le destructeur. Il en est le destructeur, c'est en partie vrai, mais il en est aussi le seul sauveur possible, puisque on le sait bien, et André sera d'accord avec moi de ce point de vue-là, il est aussi le seul animal écologue. Et si nous n'avions pas tous les instruments scientifiques et techniques modernes pour mesurer la hausse des températures réelles, eh bien, nous serions condamnés, évidemment, à mort, alors que c'est évidemment avec ces outils qui sont proprement humains que nous pouvons sauver non seulement l'humanité d'aujourd'hui, mais nos enfants et nos petits-enfants, l'avenir de l'humanité.
Francis Wolff et André Comte-Sponville sont nos invités. Francis Wolff, Pour la vie a-t-elle une valeur? Évidemment, c'est un livre. Autre livre d'André Comte-Sponville, L'opportunité de vivre. Les Laoland Brothers dans leur philo.
Time.
La philosophe et historienne de la philosophie, Françoise d'Astur.
On trouve chez Montaigne finalement une très extraordinaire et profonde méditation sur la mort, qui commence bien sûr par cet argument épicurien qui consiste à, je dirais un peu, neutraliser la mort. Montaigne va même expliquer qu'il s'agit en quelque sorte de s'avoisiner, de s'en avoisiner, de manière en quelque sorte à s'y habituer. Mais il y a chez Montaigne autre chose, je crois, qui se dit d'une autre manière, c'est l'idée que la mort nous accompagne tout au long de la vie, et il le dit très bien, n'est-ce pas? Je voudrais juste citer cette phrase, le continuel ouvrage de notre vie, c'est bâtir la mort. Nous sommes dans la mort pendant que nous sommes en vie. Nous sommes en quelque sorte mourants. Ça, c'est une idée qu'on retrouve chez Heidegger, qui oppose à Descartes l'idée que il faut pas dire je pense donc je suis, mais je pense donc je suis mourant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je suis cet existant qui est foncièrement mortel. Et c'est la mort est à ce moment-là non pas en quelque sorte l'obstacle absolu, mais c'est au contraire le tremplin à partir duquel nous existons et à partir duquel nous pouvons être ce que nous sommes.
La mort compagne de la vie, André Comte-Sponville, Montaigne fait partie de votre panthéon. Vous avez lu ou relu et re-relu les essais combien de fois?
Je ne les dis pas de façon continue, mais je n'ai pas cessé de le lire. Donc j'ai tout lu, en plusieurs fois, et j'ai beaucoup relu, surtout en effet. Oui.
Alors c'est ce qui vous permet d'avoir cet œil aussi fin, aussi critique sur la pensée de Montaigne, dont vous appréciez déjà la littérature. Vous appréciez l'écrivain qu'il est.
C'est un merveilleux écrivain, mais d'ailleurs c'est l'un des points forts de la tradition française en philosophie. C'est que nos plus grands philosophes sont d'immenses écrivains. Et parfois des écrivains de génie, Montaigne, Pascal. Et je ne connais pas d'autres traditions philosophiques dont ça soit vrai. Les plus grands philosophes allemands, Leibniz, Kant, Hegel, ne sont pas d'immenses écrivains. Les plus grands philosophes anglo-saxons, Hobbes, Locke, Hume, ne sont pas d'immenses écrivains. Alors on m'opposera Nietzsche, effectivement, qui est l'exception en Allemagne, mais c'est un cas. Alors qu'en France, traditionnellement, nos philosophes sont des écrivains et d'immenses écrivains. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je me reconnais dans cette tradition-là. C'est pas une question de papier d'état civil, si vous l'aimez. C'est la façon de philosopher qui me plaît le plus parce que je cherche une pensée à la première personne, qu'il ne s'agit pas de penser du point de vue de l'absolu, mais d'essayer de penser, bien sûr, le monde, de penser l'univers, l'universel, mais du point de vue subjectif qui est le sien. Et donc, si on philosophe à la première personne, le style, c'est l'homme. Il faut trouver le style qui permette d'exprimer cette singularité d'une pensée.
Et l'homme, c'est aussi les affects. Ce sont aussi les affects que Montaigne ne met pas de côté. Ça, vous appréciez aussi, je crois.
Oui, c'est parce qu'il pense au plus près de lui-même. Au plus près de lui-même, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le jugement, comme il dit, le pouvoir de penser, la raison. Et puis, il trouve la sensibilité, les sentiments, les affects, comme vous dites à juste titre. Et c'est pour ça qu'il nous touche tellement.
Que signifie chez Montaigne vivre à propos?
Ça signifie vivre opportunément. Et si j'appelais ce livre, ce recueil d'articles, l'opportunité de vivre, c'est bien sûr en pensant au fameux vivre à propos de Montaigne. Précisons malgré tout que c'est un recueil d'articles et le premier de ces articles porte sur le suicide vu par les épicuriens et les stoïciens. C'est le texte d'une intervention à un colloque très savant en Suisse il y a quelques années. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les épicuriens et les stoïciens, qui sont les deux grandes écoles ennemies de la Grèce hellénistique, la Grèce un peu tardive, qui ne sont d'accord sur rien, sauf sur un point, sur le suicide, ils sont d'accord pour dire au fond que le suicide, il n'y a pas à être pour ou contre.
Il y a ce qui est préférable et ce qui est non préférable, c'est ça?
Oui, il n'y a pas à être pour ou contre dans l'absolu. Ouais. C'est une question d'opportunité. Et donc, mon premier texte sur le suicide s'appelle « L'opportunité de mourir ». Et du coup, quand j'ai fait un recueil de 9 articles, dont celui-ci, il fallait trouver un titre, je l'ai appelé « L'opportunité de vivre ». Et au fond, les deux vont ensemble. Parce qu'une fois qu'on a compris que décider d'en finir, mettre fin à ses jours, ou continuer à vivre, c'est pas une question de principe, c'est une question d'opportunité. Eh bien, on comprend qu'il s'agit de cultiver cette opportunité de vivre sans laquelle rien d'autre ne serait évidemment possible. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le Littré, dans l'immense dictionnaire qu'on doit à Littré, à l'article opportun, Littré écrit « opportun, deux points, ce qui est à propos ». Et bien sûr, ça me faisait penser à une formule très fameuse de Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, le plus grand de nos chefs-d'œuvre, c'est de vivre à propos. À vivre à propos, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'adapter au cours changeant des choses, aux événements. Il ne s'agit pas d'inventer, comme le rêvait Lucrèce, une forteresse de sagesse qui nous protégerait de tout. Ça n'est pas possible. Il s'agit au contraire d'accepter notre fragilité, notre impermanence, s'adapter au terrain. Voilà, c'est ça, vivre à propos, et c'est ce que j'appelle l'opportunité de vivre.
Il faut être aussi souple que le vent pour l'homme, Francis Wolff.
Alors, André fait allusion aux arguments épicuriens et stoïciens en faveur, c'est beaucoup dire, c'est-à-dire qu'ils ne condamnent pas le suicide. Je rappelle que dans son livre précédent, qui s'appelait « La clé des champs », il a traité en son nom personnel cette question et sans s'abriter derrière ces deux grandes figures.
C'est la différence entre un impromptu et une étude.
Voilà. Ce que j'avais retenu au fond de cette étude d'André, enfin de cette impromptu qui s'appelait justement la clé des champs, qui était une belle expression pour parler du suicide assisté, c'est qu'il en faisait, si je puis dire, quelque chose comme notre ultime liberté. Ce qui m'avait semblé intéressant, c'est que cette ultime liberté, au fond, elle était, dès lors que je me considérais comme, non pas comme le possesseur de ma vie, ni même comme l'auteur de ma vie, mais simplement comme moi, être humain qui suis à la fois âme et corps, tout uniment, ce qui m'avait semblé intéressant, c'est justement que c'est un rapprochement avec un thème dont je parle incidemment dans mon livre, qui est l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG.
Ah, ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses là-dessus.
Alors,
parlez-nous des pères de l'Église.
On en parlera dans une seconde, mais je voudrais juste dire que ce qui m'avait semblé intéressant, ce qui me semble intéressant, c'est ce parallèle. Mmh. C'est-à-dire dès lors que depuis une cinquantaine d'années, on a reconnu aux femmes le droit de considérer que, jusqu'à un certain point, elles étaient maîtres de leur corps et qu'il n'y avait pas de raison de leur imposer de leur prohiber des grossesses, en particulier des grossesses non désirées. Il m'a semblé que c'est exactement la même chose qu'il y a pour le suicide assisté. Comment se fait-il qu'une société qui considère que c'est la liberté des femmes d'être maîtresses de leur propre corps, nous ne sommes pas libres jusqu'au dernier instant de notre propre vie? C'est quelque chose qui m'étonne, qui est ce décalage d'une cinquantaine d'années entre ces deux libertés. Et j'ajoute quelque chose. Je me souviens dans les discussions des années 70, autour de cette liberté, il y avait deux types d'arguments. L'argument de principe, que je viens de rappeler, liberté des femmes, et il y avait l'argument par les conséquences, qui était celui-ci. Si on continue d'interdire l'IVG, eh bien, un grand nombre de femmes continueront de pouvoir procéder à des IVG en allant en Suisse ou en Grande-Bretagne, tandis que voilà, les pauvres femmes qui ne peuvent pas se payer ce voyage continueront d'être privées de cette liberté.
C'est un peu pareil pour le suicide assisté,
c'est-à-dire
on va en Suisse,
c'est
on va en Belgique,
exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que
surtout en Belgique d'ailleurs.
On ajoute à l'arbitraire d'une privation de liberté une injustice sociale. Et je crois que c'est dans les deux cas, c'est du même type.
Mais juste une parenthèse, parce que je trouve ça très intéressant quand vous parliez tout à l'heure de la vie nue. Et là, vous racontez que précisément, il fut tout un temps, parce qu'on nous dit toujours que les pères de l'Église sont contre l'avortement, enfin que l'Église est contre l'avortement, d'une manière générale, je grossis le trait. Et vous dites qu'en fait, ça a longtemps été un sujet de discussion jusqu'à dans la deuxième partie du 19e.
Exactement, c'est-à-dire que la question qui se posait dans l'histoire de l'Église était de savoir si il y avait animation immédiate ou médiate. Animation immédiate, cela impliquait que dès la conception, l'âme est présente. Et les partisans de l'animation médiates, parmi lesquelles le grand-père de l'Église par excellence, saint Thomas d'Aquin, qui, en bon disciple d'Aristote, pensait qu'il y avait animation médiate, c'est-à-dire qu'il fallait un certain temps de constitution de l'embryon avant qu'on puisse parler d'une âme, eh bien, ne voyait aucun inconvénient, en tout cas pendant les premières semaines de grossesse, à l'avortement, qui n'était pas donc considéré, comme ce fut le cas, en tout cas à partir depuis 1860, comme un meurtre. Si vous voulez, on retrouve ce qui est très frappant, c'est aujourd'hui, c'est pratiquement devenu un marqueur du christianisme et même parfois du judaïsme, enfin des religions monothéistes. Ce marqueur, c'est être pour ou contre l'avortement. Ce qui est tout à fait curieux du point de vue de l'histoire des textes et de leur transmission, d'un côté, et de voir que, d'un côté, ceux qui sont pro-choice s'opposent à ceux qui sont pro-life, et c'est un des thèmes, d'ailleurs, de mon livre. Peut-on vraiment être pro-life jusqu'au bout ?
André Comte-Sponville, vous rejoignez votre ami Francis Wolff ?
Oui, monsieur, c'est vrai que j'avais mon livre précédent, donc, qui s'appelle La clé des champs, commençait par un article qui était un plaidoyer pour l'euthanasie et le suicide assisté. Et le titre, je l'empruntais à Montaigne, puisque Montaigne, là encore lui, dans les essais écrit « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. » La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller, le droit de mourir, y compris volontairement. Autrement dit, si je suis maître de ma vie, je dois pouvoir l'être aussi, si je le veux, de ma mort. Alors, il ne s'agit pas de faire l'apologie du suicide. Hein. Personnellement, je préfère la vie. Mais là encore, c'est une question d'opportunité. Et si j'ai appelé ce second livre, ce dernier livre, « L'opportunité de vivre », c'est parce que dans tous les débats auxquels j'ai participé sur la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté, très souvent, les opposants à la légalisation de l'euthanasie me disaient « Vous avez choisi la mort, moi je choisis la vie ». C'est bien sûr idiot. Personne ne choisit la mort, en tout cas pas moi, je suis pour la vie, évidemment, mais je suis aussi pour la liberté. Et dès lors que je suis maître de ma vie, je dois pouvoir être maître de l'interrompre dans telle ou telle circonstance si je le juge bon. Autrement dit, quand Camus écrit au début du mythe de Sisyphe « Le seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide », il a évidemment tort. D'abord, il y a des tas de problèmes philosophiques sérieux indépendamment du suicide, mais parce que le problème de suicide n'est pas susceptible d'une réponse générale, absolue, je suis pour le suicide ou contre. Ce que répondent les épicuriens, les stoïciens, ce que répond Montaigne, c'est ça dépend des moments, ça dépend des circonstances. Autrement dit, en ce moment, me suicider, ça serait clairement inopportun.
Non, pas avant la fin de l'émission, je vous en prie. Ah bah oui, on se retrouverait tout seul.
Comme je suis en bonne santé, me suicider me semblerait parfaitement absurde, dommageable. Mais si sortant de ce studio, je suis atteint d'un AVC gravissime qui me laisse parler des quatre membres, les circonstances auront changé. Et là, je souhaite pouvoir mourir si je le demande. Et comme si je suis parlé des quatre membres, je ne pourrais plus me suicider moi-même, je demande l'assistance de mon médecin. Autrement dit, il ne s'agit pas d'être pour la mort, il s'agit d'être pour la vie et pour la liberté.
Et pour le temps présent, est-ce que Francis Wolff, vous êtes comme Montaigne, quand vous dansez, quand vous dormez, quand je danse, quand je dors, écrivait Montaigne.
De ce point de vue-là, je suis montagnien moi aussi, oui, c'est sûr.
En fait, pour Montaigne, si j'ai bien compris, mais je vais peut-être dire une bêtise, il n'y a que le temps présent finalement qui compte, non ?
Il n'y a que le temps présent qui est réel,
ouais.
Et pourtant, et donc il faut vivre au présent, sauf que ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas parce qu'on n'arrête pas de penser à l'avenir. Et Montaigne, avec sa lucidité habituelle, reconnaît que, oui, il faudrait vivre au présent, mais justement, on ne peut pas parce que nous sommes toujours tendus vers l'avenir.
Mais ce dont il parle, c'est le changement, en fait, du changement que provoque le temps, ça, oui.
Oui, c'est le devenir, voilà. Autrement dit, pourquoi est-ce que... Quelle est la force du temps ? C'est que tout change, rien ne demeure. Voilà. Mm. Et au fond, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'héraclitéïsme, la pensée d'Héraclite, correctement une formule. On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. Oui, on peut se baigner deux fois dans la Loire ou dans la Seine, mais si vous baignez le dimanche après-midi dans la Seine, vous revenez le lundi matin, vous dites « je me suis baigné deux fois dans la Seine ». Oui, c'est le même mot, ça s'appelle la Seine, mais il n'y a pas une seule molécule d'eau qui soit la même. Et il faut rappeler que ce n'est pas dans le nom qu'on se baigne, c'est dans l'eau. Autrement dit, voilà, l'héraclitéisme, c'est penser l'être sur le modèle du fleuve qui coule, autrement dit, sur le modèle du devenir. Et donc Montaigne n'est pas un penseur de l'être éternel, c'est un penseur du devenir, et donc un penseur du temps. Et donc un penseur de la mort, ça nous renvoie au beau commentaire de Françoise d'Astur sur Montaigne. Si je suis dans le temps, je suis un être, alors pour la mort, comme dira Heidegger, en effet. Sauf que Montaigne, au contraire de Heidegger, nous invite à vivre ça non pas dans l'angoisse, mais dans ce qu'il appelle la nonchalance. Et de ce point de vue, l'esprit de Montaigne vis-à-vis de la mort se résume en une formule que j'ai souvent citée, mais qui est très belle. Montaigne écrit « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. » Donc oui, comme Heidegger, il pense à la mort, mais bien loin de vouloir en faire je ne sais quelle raison d'angoisse, il en fait au contraire une raison de plus d'aimer la vie et de vivre opportunément et avec nonchalance.
Francis Wolff, Dame Nature, dont on parlait à l'instant au sujet de Montaigne, la nature au fond, elle est complètement amorale.
La nature est amorale, et heureusement, et la vie et le vivant aussi, et heureusement, car si le vivant respectait le vivant, ben il n'y aurait plus de vie. Si on empêchait le loup de manger les agneaux et les agneaux de manger l'herbe, eh bien, qui sont des êtres vivants, il n'y aurait plus d'êtres vivants.
Mais les prédateurs ne sont pas plus méchants que leurs proies.
Les prédateurs ne sont pas plus méchants que leurs proies, puisqu'ils ne font que vivre et de vouloir vivre. Alors, il y a une différence néanmoins entre les êtres vivants en général et ce vivant particulier qu'est l'homme. Et c'est une différence considérable qui, en quelque sorte, nous ramène à la discussion précédente sur le temps.
Oui. Vous avez écrit d'ailleurs, vous étiez venu nous en parler, le temps du monde, un essai sur le temps.
C'est que l'être humain est un mammifère très particulier puisqu'il vit en particulier dans l'avenir. Non seulement parce qu'il est marqué par la longévité, par sa longévité, mais aussi et surtout parce que nous nous inquiétons à travers nos enfants et nos petits-enfants des conditions de vie sur Terre, sur cette planète. Alors, en fait, le vivant, les vivants s'en fichent. La vie s'en fiche. Mais les êtres humains ne peuvent pas s'en fiche parce que, en quelque sorte, nous sommes condamnés à nous préoccuper qu'il puisse y avoir encore demain de l'humanité. Autrement dit, prenons l'exemple du réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique, certaines espèces vont disparaître. Est-ce grave pour elles ? Ben non, elles n'existeront plus. D'autres vont proliférer, se multiplier. Est-ce que c'est grave pour elles ? Ben non, puisque justement elles existeront. Mais la seule pour qui c'est tragique, c'est l'humanité, c'est notre humanité.
C'est pour ça qu'on parle de la sixième extinction, c'est tragique.
Exactement, parce que nous vivons dans le futur et que l'humanité, c'est pas simplement les êtres humains qui sont présents aujourd'hui, c'est celle qui est en train de naître sous nos yeux et qui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, hériteront de la planète que nous avons forgée pour eux, hélas.
Vous préférez un nous, l'humanité, plutôt qu'un nous, le vivant.
Oui, parce que si je dis nous, le vivant, si je rêve à une espèce d'unité impossible, verticale du vivant, je condamne tous les vivants à mort, alors c'est condamnation immédiate, alors que si je rêve à l'unité horizontale des êtres humains, eh bien c'est sa seule chance de survie.
C'est très spinoziste aussi, la nature qui n'a pas de morale, André Comte-Sponville.
Oui, bien sûr. Pourquoi ? Alors, c'est l'un des points qui nous sépare. Comme pour moi, la nature est le seul absolu. Dès lors que la nature n'a pas de morale, il n'y a pas de morale absolue, il n'y a de morale que relative. Et je pense qu'il ne serait pas d'accord avec moi là-dessus. Mais en revanche, ce qu'il faut bien rebondir sur ce qu'il a dit à l'instant, pour montrer où sont les désaccords et pourquoi ce livre, qui est un très beau livre, le livre de Francis, va en agacer certains, c'est qu'il assume, au fond, je ne crois pas que cette formule-là soit dans ce livre-là, mais il assume l'idée que l'humanisme
est un spécisme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend ?
Le spécisme, c'est la hiérarchie entre les espèces.
Hein. On a forgé ce concept de spécisme par analogie avec le racisme. Donc, être raciste, c'est penser que toutes les races ne sont pas égales. Être spéciste, c'est penser que toutes les espèces ne sont pas égales. Sauf que je suis évidemment anti-raciste, mais on ne fera jamais dire que, je sais pas quoi, un chien, un chat, une poule, un poux et un être humain, c'est la même chose, si vous voulez. Et donc, effectivement, là-dessus, je rejoins tout à fait Francis, je suis humaniste et donc spéciste, parce qu'on ne me fera jamais dire que toutes les espèces sont égales en droit et en dignité. Ça n'est bien sûr pas une raison, mais là encore, Francis serait d'accord, pour ne pas protéger les autres espèces. Et c'est justement l'une des singularités de l'humanité, c'est que l'humanité, bien sûr, est une espèce prédatrice, comme beaucoup d'autres, et plus prédatrice que la plupart parce qu'elle est plus nombreuse et plus puissante, mais l'humanité est aussi la seule espèce écologiste. Je l'ai souvent dit, imaginez que l'humanité devienne une espèce en voie de disparition. Je vous jure bien que les baleines et les éléphants ne lèveront pas le plus petit bout de nageoire ou de trompe pour nous aider. Alors que nous nous préoccupons de l'avenir des baleines et des éléphants. Voyez. Donc oui, nous sommes une espèce prédatrice. Donc oui, il faut changer notre mode de développement. Il faut sauver la planète, comme on dit pour faire court. Mais c'est justement parce que l'humanité n'est pas une espèce comme les autres.
C'est-à-dire que la morale anthropocentriste que défend Francis Wolff, en fait, vous la faites vôtre aussi.
Ce n'est pas anthropocentrique, mais la morale humaniste. Dont je pense d'ailleurs qu'en vérité, c'est la seule morale disponible ou crédible aujourd'hui.
Indépendamment des religions. Parce que ce sont aussi les plus démunis qui sont les plus touchés par les dégâts climatiques.
Si je peux ajouter deux arguments que je développe un peu sur la question de l'antispécisme ou du spécisme. Premièrement, dans la nature, les races n'existent pas, c'est pourquoi le racisme est une bêtise et l'antiracisme est un combat légitime, alors que les espèces existent, et si elles n'existaient pas, eh bien il n'y aurait plus d'êtres vivants. J'ajoute une chose, heureusement que toutes les espèces sont spécistes, c'est la condition même de leur survie.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo que vous écoutez une très belle chanson de Claude Nougaro, Vieillesse.
Je te vois venir, vieillesse, avec tes vieux ressorts grincheux. Là, tu m'arraches les cheveux. Ici, une dent de sagesse. Au lieu de m'en donner un peu de sagesse, je te vois venir, vieillesse. Me voici des tiens, irrésistible maîtresse. À la pointe du chemin, tu vois, je te rejoins. Donne-moi la canne de tes hanches et ma belle barbe du dimanche, bien blanche. Je te vois venir, prêtresse, annonciatrice des adieux. Quand j'étais môme, j'aimais les vieux. Leurs yeux avaient une tendresse. Tâche de m'en donner un peu de tendresse. Je t'attendrirai, vieillesse. T'avancer, crépusculaire princesse, ma dernière fiancée, enfantine vieillesse, fais couler mon vin de palme au jeune matin qui plane, clair, pur et calme. claire, pure, calme.
C'est une très belle chanson, pas très connue, de Claude Nougaro. Vous la connaissiez pas, Francis Sol? Et vous me disiez que vous aimez bien Claude Nougaro.
J'aime beaucoup.
Vous aimez
J'aime beaucoup Nougaro, oui.
Bon, vous aussi?
Oui, et je ne connaissais pas non plus cette chanson.
Non, elle n'est pas très connue. Est-ce que, alors là, vous allez me dire l'un et l'autre votre point de vue, puisque je vois qu'on arrive presque à l'heure, mais est-ce qu'on peut pratiquer une sagesse de la modération sans pour autant vivre moins intensément? André Comte-Sponville.
Alors c'est ce que Marcel Conche, qui était mon maître à la Sorbonne, appelle l'aporie de la sagesse.
Voilà.
Parce qu'au fond, la vie, elle est amorale, elle est démesure, tout être tend à exister le plus possible, y compris aux dépens des autres, et pourtant la sagesse nous donne des leçons de modération. Est-ce que ça veut dire que le sage serait moins vivant? Et bien sûr, la réponse de Marcel Conche, c'est non. Est-ce qu'il appelle une sagesse tragique, au fond, dans la formule qu'il emprunte à Nietzsche, c'est une sagesse de l'affirmation de tout, le bien, le mal, la joie, la tristesse, l'amour, la haine, mais sous l'horizon du temps et de la mort, dit Marcel Conche. Autrement dit, c'est quoi une pensée tragique? C'est une pensée qui a conscience que ce qui a le plus de valeur va disparaître, va périr. Et donc, il s'agit de penser la vie sous l'horizon du temps et de la mort, comme dit Marcel Conche, et de comprendre qu'elle n'en est que plus précieuse, précisément. Et c'est pourquoi la vie vaut pour tout être vivant, comme dit Francis dans son livre. Il ne s'agit pas de célébrer la vie en général, mais pour tout être vivant, sa vie à lui, bien sûr, a de la valeur, et pour l'humanité, la biosphère a de la valeur, parce qu'on ne peut sauver l'humanité qu'à la condition de sauver la biosphère. Ça n'est pas une raison pour considérer que toutes les espèces se valent, mais c'est notre devoir d'êtres humains, justement parce que nous ne sommes pas une espèce comme les autres, que de nous préoccuper des autres espèces.
Et Marcel Conche parle aussi de prédominance abusive, et à ce sujet, je voudrais quand même citer cette phrase de Nietzsche, parce qu'elle me paraît coller parfaitement au temps présent que vous citez, donc André Comte-Sponville, dans votre essai. Vivre, c'est, donc je cite Nietzsche, essentiellement dépouiller, blesser, subjuguer l'étranger, le faible, l'opprimer, lui imposer durement nos propres formes, l'incorporer et au moins, au mieux, l'exploiter.
Voilà. Ça, c'est la vie. Et la vie, effectivement, est du côté de la volonté de puissance. Et c'est pourquoi la vie est amorale, puisque vivre, c'est tuer, en gros. Et nous avons inventé la morale pour ne pas tuer d'abord les autres êtres humains, mais aussi pour nous soucier, là encore, des autres espèces. Moi, je n'ai rien contre, bien au contraire, la protection des espèces animales.
Moi non plus.
Mais c'est justement le propre de l'humanité que de se soucier des autres espèces.
À vous le micro, Francis Wolff, pour terminer cette émission,
pas,
pour conclure. Vous avez une minute.
On a beaucoup parlé de la mort, du suicide assisté, de l'IVG, de toutes ces choses tragiques. Je ne voudrais pas que quelques auditeurs en concluent que nous sommes, comme disait tout à l'heure André, du côté de la mort.
Ah ben non, je crois pas, non.
Pas du tout. Je plaide dans ce livre, y compris pour la valeur de la vie humaine. Quand la sent-on le plus? Vous vous relevez après une longue maladie, vous vous sentez, comme on dit, revivre. Et vous ressentez pour la première fois l'odeur des fleurs, le goût de la cerise, le vent dans votre visage. Et vous savez alors qu'il est bon de vivre, simplement de se sentir vivre. Et ce sentiment-là suffit à être une raison de vivre et une valeur en soi.
Magnifique, merci beaucoup. On le laisse finir, hein, parce qu'on n'a plus le temps de toute façon.
Je ne dirais pas.
Francis Wolff, La vie a-t-elle une valeur? Publié chez Philosophie Magazine, éditeur. Donc c'est pas du tout triste, il y a des moments joyeux dans cet essai. André Comte-Sponville, L'opportunité de vivre, ultimes études. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier bouquin de votre vie. C'est aux presses universitaires de France, vous en écrirez un autre, même si vous ne savez pas encore sur quoi.
Écoutez, je ne sais pas,
vous savez
mais
pas, monsieur,
l'avenir est ouvert.
Mais voilà.